Oui, c'est aujourd'hui du côté de Boca Raton que se terminait ce meeting des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey. Oui, je vous ai parlé du plafond salarial. Oui, on s'est parlé des négociations de la convention collective. Il y a un petit quelque chose qui s'en vient à l'aube des séries de fin de saison du côté de la Ligue nationale de hockey, c'est qu'on utilisera les puces dans les rondelles de la Ligue nationale de hockey pour les séries. Je ne sais pas si on ira sur les joueurs également. Ray Lalonde est avec nous en studio. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Est-ce qu'on va utiliser aussi les puces sur les joueurs?
Oui, on a déjà fait les tests à quelques occasions lors des matchs d'étoiles, Jérémy, puis c'est assez concluant. On veut mesurer la vitesse des joueurs sur la glace, autant à l'attaque qu'à la défensive, les mouvements, le temps de possession de rondelles, toutes sortes de petites données informatiques d'intelligence qui vont servir non seulement à agrémenter le spectacle, la consommation pour le partisan consommateur à la maison, sur son ordinateur ou sa télévision, aussi servir aux entraîneurs pendant un match, mm-hmm. où ils peuvent eux-mêmes tout de suite consulter les plus récentes informations et l'intelligence disponible. Les dépisteurs, ceux qui sont en haut, sur la galerie de presse qui observent d'en haut, et aussi de l'information qui pourrait éventuellement être un complément pour les parieurs sportifs maintenant que c'est légal dans plusieurs États aux États-Unis, puis que les ligues, dont la Ligue nationale de hockey, ont des ententes avec des maisons de Paris, de Vegas et partout aux États-Unis. Alors, ça devient plus d'informations pour aider et motiver et inciter les gens à parier davantage.
Ray, éclaire-moi s'il te plaît, parce que là, on parle de données extrêmement précises, donc avec ces puces électroniques dans les rondelles ou sur les joueurs. En quoi ça peut aider le pari sportif? On se dit, bon, un joueur qui passe plus de temps en territoire adverse a plus de chances de marquer de points. Est-ce que c'est le genre de statistiques oui. qu'on peut aller chercher?
Oui, puis, tu sais, je veux juste préciser que on n'a pas affaire à ce que Fox a fait dans les années 90 nécessairement pour voir des grandes lignées bleues sur nos écrans.
Okay, c'est pas ça, là.
Non, c'est pas ça. Ça veut pas dire que c'est pas disponible. Ça veut dire que le but, c'est plus de donner plus de raisons pour le partisan de s'engager. Et plus ils sont engagés, ben là, ça augmente les audiences télé et ça augmente les possibilités de paris. Mais à l'inverse, plus tu paries, plus tu regardes. Donc, le pari sportif a un côté positif pour le sport. C'est que les gens qui ont de l'argent en jeu, Jérémy, ils ont une tendance à vouloir suivre le résultat plus longtemps et plus fréquemment. Finalement, c'est toujours relié à l'économie et aux audiences et à la popularité de ces sports-là. Sans nécessairement être trop précis pour une donnée analytique ou une autre, c'est le maximum d'informations possibles qu'on veut retransmettre aux gens et laisser les gens décider d'eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent consommer.
Évidemment, on est capable de dire que du côté de la Ligue nationale de hockey, on n'est peut-être pas au niveau des autres circuits professionnels, mais que la business va bien. On a vu aujourd'hui les directeurs généraux, on apprend que le plafond salarial pourrait passer de 81 jusqu'à entre 84 et 88. Mais toi, tu regardes ça avec un certain pas de recul.
Bien, c'est sûr que quand un cap salarial, plafond salarial augmente, c'était quand même là, de quoi à peu près 39 millions là, à la sortie du lockout en 2005-2006. 75 millions en 2017, 79,5 en 2018, 81,5 l'an dernier en début de saison. Ça veut dire que la santé du hockey est bonne. Ça veut dire que les revenus augmentent. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent disponible pour des salaires de joueurs. Parce qu'on n'a pas augmenté le nombre de joueurs. On fait juste mettre de plus en plus d'argent disponible pour payer les joueurs. Mmh. Et si tu prends ce chiffre-là là, de 81,5 puis tu le multiplies par 31 équipes, ça te donne une idée de ce que représente la portion joueur disponible dans les revenus de hockey dans le monde entier. Donc, quand ça monte, c'est bon signe. Mais ce n'est pas le chiffre officiel, parce que ce qu'on donne aux équipes actuellement, c'est une idée approximative de ce qui s'en vient pour leur permettre de mieux planifier leurs dépenses et leur gestion de contrat entre aujourd'hui puis la fin du bilan financier cet été. Parce que les résultats de cette année ne sont pas encore connus. Il y a beaucoup de matchs, évidemment, éliminatoires. Puis tu as des grands marchés comme Toronto et les Rangers qui peuvent affecter beaucoup. Puis quand ces grands marchés-là disparaissent, dont Montréal, bien forcément, il y a moins de revenus dans le grand pot de revenus de la Ligue.
On a vu également Gary Bettman qui s'est exprimé sur le fait que des matchs, souvent, il n'y avait pas beaucoup de partisans qui étaient dans les estrades. Là, il a dit « Faites attention de ne pas associer ça nécessairement au coronavirus. » Mais on regarde ça d'un œil, averti, ce qui se passe présentement. Et c'est la même chose pour différentes ligues de sport à travers le monde.
Oui, bien là, on voit, tu sais, on se parlerait toi et moi demain, puis on va avoir un autre son de cloche. Et à chaque jour qui passe, le son de cloche devient de plus en plus négatif. Tu sais, on est rendu à 90 000 cas plus, on est rendu à 3 400-500 décès. Le Canada, tu sais, il y a quoi, 33 cas au Canada. Les États-Unis sont rendus à presque 140. ça se complique. Et à chaque jour, on doit prendre des mesures différentes pour se pallier. Et à chaque jour, les commissaires et leaders de ligue, dont nos ligues en Amérique du Nord, doivent, eux, donner des consignes, Jérémy, qui sont encore plus précises et des recommandations pour éviter au maximum, que ce soit dans la NBA, les high-fives sur le terrain, on n'en verra plus, que ce soit des voyages non nécessaires à des membres de l'organisation qui ne sont pas les joueurs. T'sais, on va limiter de plus en plus les déplacements.
Hier, on a parlé à Patrice Bosch, qui est entraîneur du côté de la Suisse. Et puis, il nous a dit, c'est terminé, les poignées de main entre les joueurs. Avant, après les matchs, poignées de main aux officiels également, c'est terminé. Donc, c'est le genre de situation Absolument. Qu'on va amener pour éviter les contacts, les rassemblements, les choses comme ça.
On va éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Puis, on va faire attention pour mesurer quotidiennement l'enjeu. Et tu sais, on parlait au début de la conversation coronavirus là, des Jeux olympiques. Bien sûr, c'est le plus gros événement de l'année. Mais là entre-temps, là, on peut décaler graduellement, puis on va se retrouver avec les 4 tournois majeurs au tennis. On va se retrouver avec le Grand Prix de Chine qui est déjà remis du 19 avril à plus tard. Puis là, on pense au championnat du monde de courte piste, en patinage courte piste, annulé. Puis là, on va commencer à regarder aux côtés Amérique du Nord, séries éliminatoires, NHL, NBA, début de saison baseball. En Italie, tous les événements sportifs à partir d'aujourd'hui seront joués à huis clos, donc pas de partisans. Là, je ne parle pas juste de la Serie A au football, soccer, je parle de tous les événements sportifs en Italie pendant au moins un mois. Et de plus en plus de commentaires sortent effectivement du comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo qui eux-mêmes commencent à utiliser le mot annulation possible.
Ben, attends, il y a de la grosse business d'investir ouais, là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Là. Alors, il y a des commanditaires qui ont déjà payé. Là.
Ils ont payé, il y a les droits de diffusion, il y a tout ça. Puis là, NBC aujourd'hui a déclaré qu'ils ont vendu 1,2 milliard de pubs pour les Jeux de Tokyo de cet été, un record absolu de tous les temps. 90 % de l'inventaire est vendu. Donc, une excellente année lucrative qui risque de tomber. Et ce qu'ils ont dit, on a de la protection d'assurance au cas où il y aurait une annulation. Et puis finalement, je termine le dossier des sports avec le coronavirus. C'est qu'aujourd'hui, à Tokyo, les organisateurs ont déclaré que la possibilité de retarder un peu existe, mais notre contrat avec le Comité international olympique, c'est en 2020 seulement. Fait qu'en 2020, il y a cette forme de protection d'un côté ou de l'autre. Mais si jamais ça ne peut pas avoir lieu en 2020... Là, tu vas avoir des pertes financières gigantesques.
Et on regarde du côté de l'Amérique du Nord. Là, il y a le March Madness qui va débuter dans peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation-là?
Ben, moi, je pense que... Je veux pas être un prophète de malheur là, ou tout ça, mais je pense que si ce dossier-là se poursuit et perdure encore longtemps, ce qui risque d'être le cas, tu vas avoir des grands événements en Amérique du Nord devant nos yeux là, qui vont être joués sans spectateurs. Et si le risque est si élevé, ben là, ils vont les annuler tout simplement. Et March Madness, qui commence, si ma mémoire est bonne, près du 17 mars, là, ça, là, c'est 2 semaines. 2 semaines, tu sais comment que ça attire de monde. En passant, March Madness, c'est un investissement de 1,1 milliard de CBS dans l'événement de 3 semaines. Et c'est 80 % des revenus de la NCAA, du bureau de la NCAA, je parle, là, dans un seul événement. Fait que si ça n'a pas lieu, la NCAA vient de prendre un coût financier énorme qui pourrait les jeter à terre. Encore une fois, on spécule pas, là, mais ce sont des vrais faits dans la situation puis l'environnement dans lequel on vit.
Si on enlève les spectateurs, mais qu'on diffuse, les revenus principaux sont sur la diffusion, oui, pas sur la billetterie.
T'as raison, t'as raison. Puis c'est un bon compromis, puis c'est une possibilité. Mais Jérémy, je te le dis, là, tous les jours, tu vas entendre de nouvelles récentes, plus fraîches, au sujet des événements qui nous touchent de plus près, parce qu'on pensait premièrement à long terme, mais là, on n'a plus besoin de penser à long terme. On doit penser aux choses qui ont lieu dans les 2-3 prochaines semaines.
Passons maintenant du côté de la NFL, parce que là, la convention collective, on est prêt d'être capable de ratifier ça entre l'association des joueurs et les propriétaires. Je sais pas si 17 millions à Tony Romo comme analyste est venu mettre du poids dans les conversations ou si ça a changé quoi que ce soit. Comment ça se passe, ce dossier-là?
Bien, d'abord, traitons le dossier de la NFL. Le bulletin de vote, là, électronique et dans les mains des 1950 joueurs de la NFL. Alors, ça prend quelques jours là, pour que ces gars-là votent en faveur ou non. Tu as plusieurs grands noms, comme Aaron Rodgers, par exemple, qui s'est déclaré opposé à cette offre-là. Mais de façon simple à comprendre pour nos auditeurs, Jérémy, là, c'est à peu près une somme d'à peu près 90 000 $ US instantanément rajoutée au salaire minimum. Puis il y a pas mal plus de gars qui sont proches du salaire minimum que des gros salaires à 35 millions ou 37 millions de Russell Wilson puis Ben Roethlisberger. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs marginaux dans le football. Mm-hmm. Le salaire moyen dans le football de la NFL, la plus grande ligue au monde en termes de ligue, pas en termes de popularité puis de notoriété, mais en termes de ligue puis d'argent, c'est 3,7 millions de dollars. Dans la Ligue nationale de hockey, qui est infiniment plus petite que la NFL, le salaire moyen est autour de 4,5 à 4,7. Et dans la NBA, 7,5. Alors, la NFL ne paie pas suffisamment ses joueurs par rapport au nombre d'années de carrière en moyenne d'un joueur de la NFL et du fait que les joueurs n'ont pas de contrat garanti. Donc, il y a, tu sais, on parle de Laurent Duvernay-Tardif, là. Quand tu as eu ton argent garanti, Jérémy, après ça, là, bonne chance. Tu as encore un contrat jusqu'au jour où ils disent merci, t'es congédié. Puis là, il n'y a pas de résidus financiers qui te reviennent. Là. C'est fini, tu repars à zéro. Donc, j'applaudis le fait que la NFL et les joueurs s'entendent bientôt. C'est une nouvelle convention collective pour 10 ans. Ça devrait passer parce que, en tout et partout, là, c'est 5 milliards de dollars de plus redistribués aux joueurs sur une période de 10 ans. 5 milliards de plus d'argent disponible pour les joueurs. En retour, un match de plus en saison, deux équipes de plus en série, un match pré-saison en moins, deux joueurs de plus dans l'alignement. Fait que plein de bonnes choses pour la NFL. C'est pour ça que je pense que ça va se régler très bientôt.
On verra ce qui se passera du côté de cette convention collective. Et en terminant, un petit mot sur Amazon. Est-ce que j'ai bien vu qu'Amazon diffusera des matchs des Yankees de New York?
Oui, ils ont fait un deal. Écoute, tu sais, ça, c'est un sujet, là, on pourrait s'éterniser, là. Les Facebook, les Twitter, les Amazon et tous ces grands-là, YouTube aussi, qui sont en train d'étudier un peu le sérieux de l'opportunité sportive. Parce que, pense à un Facebook, là, je prends cet exemple-là, qui a plus de 2,2 milliards d'abonnés dans le monde. Si Facebook décide que nous, on achète des droits, il les diffuse à ses 2,2 milliards de clients potentiels. C'est rien de comparable à ce que NBC, Fox, CBS, ABC, ESPN peut faire. Donc, les ligues sont intéressées d'aller dans une aventure avec ces plateformes de technologie-là parce qu'ils offrent une clientèle mondiale qui est énormément plus grande pour leurs produits. Donc, les Yankees ont signé une entente, je pense que c'est 21 matchs avec Amazon. Ce sont des matchs qui vont être un peu sortis là, de l'équation de Yes Network, qui est le Yankees Entertainment and Sports, et qui ne sont pas disponibles nécessairement dans tous les marchés, mais Amazon se lance dans la diffusion, dans la programmation, puis dans la production, parce que Amazon, la plus grosse compagnie sur la planète aujourd'hui, voit l'avenir du sport comme étant une autre façon d'abonner des gens à leur Prime Vidéo, qui coûte à peu près 125 $ puis dont ils ont 150 millions d'abonnés déjà.
L'appât du gain, hein? C'est toujours là.
La multiplication des abonnés, mon Jérémy.
Voilà, merci beaucoup, Ray Lalonde, d'avoir été avec nous. Merci énormément. On s'arrête quelques instants au retour. On revient sur cette victoire du Canadien hier, sur la préparation pour le match de demain et la confirmation du retour de Claude Julien, qui sera à la barre du Canadien, selon Marc Bergevin, la saison prochaine, avec Bruno Gervais qui est là au retour. Restez là.